Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On veut la vérité, on ne veut pas crever. Avec ces slogans, des habitants et des militants écolos ont laissé éclater leur colère à Rouen hier soir. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, les autorités ne parviennent pas à rassurer la population. 5 ministres se sont quand même rendus sur place depuis jeudi, y compris Édouard Philippe qui a promis la transparence totale. Alors la liste des produits concernés sera publiée dans les heures qui viennent, mais en réalité, la défiance s'est installée. Les habitants font eux-mêmes les prélèvements, mettent en doute la parole de l'État. Les plaintes s'accumulent, les fake news aussi. Pendant ce temps-là, les récoltes de 1 800 agriculteurs sont gelées. Le ministre de l'Agriculture promet, lui, de son côté, une indemnisation totale. Alors pourquoi ce début de panique? Quels sont les produits qui ont réellement brûlé il y a 5 jours? Quelles conséquences pour les habitants, pour les cultures, pour l'alimentation? Rouen réclame la vérité, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Danhaye, vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement. Rappelons votre livre, Le Sol, enquête sur un bien en péril, dont la 2e édition est à retrouver en poche chez Flammarion. Arnaud Gossement, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement. Laura Verdier, vous êtes ingénieure et fondatrice de LVR Consulting, une entreprise de conseil en environnement. Arnaud Gonzague, enfin, vous êtes journaliste environnement, chef du service société à l'Obs. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Pourquoi on en arrive à une telle situation, Frédéric Danhaye, avec d'un côté le gouvernement, le Premier ministre, qui de nouveau à l'Assemblée cet après-midi vient de dire en gros, il n'y a pas de risque majeur pour la santé, d'un côté. De l'autre côté, une population, et on va voir les images, qui passe désormais à la colère et qui réclame, c'est même le titre de notre émission, la vérité. On a l'impression qu'ils ne s'entendent pas.
Oui, c'est assez affligeant. C'est même plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, la parole publique, la parole de l'État ne compte plus. Plus personne ne croit en une parole officielle, qu'elle soit administrative, scientifique et a fortiori celle de l'État. Et ceci dans une population qui n'a plus de culture du risque, qui n'est plus habituée au risque parce que les industries ne sont plus vraiment là, les industries, on les a chassées, et puis une population qui a été traumatisée durablement, par Tchernobyl, vous l'avez oublié, par la crise de la vache folle, par la crise du sang contaminé, et qui associe Céveso à une mortalité massive, à un risque cancéreux multiple. Enfin voilà, on a une population qui ne sait pas, dont la culture du risque est proche de zéro, et un gouvernement qui ne sait pas quoi faire, qui, je pense, ne retient pas d'informations, mais il ne sait pas communiquer, donc il ne communique pas. Et entre les deux, vous avez forcément des gens qui en profitent un peu pour en rajouter, remettre de l'huile sur le feu, si j'ose dire. De toute façon, tant qu'on n'aura pas les résultats qui devraient apparaître pendant cette émission...
Alors, on a quand même on va les avoir, effectivement, ouais. Et on la donnera à la liste en essayant d'être le plus clair possible. Le gouvernement, visiblement, a des résultats, Arnaud Gossement, puisqu'il dit, le Premier ministre, va voir les habitants de Rouen en disant il y a une odeur très désagréable qui peut inquiéter, qui peut irriter, mais la qualité de l'air n'est pas en cause. Il arrive avec un discours rassurant.
Alors oui, les politiques ont été très réactives dans cette affaire-là. 4 ministres arrivent sur le site dès le premier jour. Le Premier ministre qui revient sur le site, Agnès Buzyn, la ministre de l'écologie viennent également. Donc le politique est très réactif. Le problème, ce qui participe à la défiance, c'est les contradictions dans les discours. Le préfet vous dit « Soyez rassurés, l'état de l'air, ça va bien ». Et en même temps, au même moment, la ministre en charge de la Santé dit « Rouen est clairement pollué ». Et le politique dit « soyez rassurés », mais en même temps, il nous dit aussi « je ne sais pas exactement ce qu'il y avait sur le site, attendez la liste des matières qui étaient présentes sur le site. Donc si tu ne sais pas, comment tu peux me rassurer, moi, citoyen ?» Vous avez une multitude de contradictions, y compris entre préfets. Le préfet de l'Oise, par exemple, a déclaré ce matin que, contrairement au préfet de la Seine-Maritime, il était prudent, il ne savait pas encore exactement ce qui avait brûlé. Alors que le préfet de la Seine-Maritime dit c'est sous contrôle. Vous avez de multiples contradictions dans ces discours-là aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire-là, c'est qu'on a le sentiment que le dispositif n'est pas au point, qu'il y a une forme d'amateurisme presque, d'improvisation dans la gestion de cette crise.
Et c'était la question que je voulais vous poser, Laura Verdier. Je rappelle que vous êtes ingénieure en environnement. À chaque fois qu'on fait des émissions sur les sites Céveso, sur les centrales nucléaires, on raconte que ce sont des sites extrêmement sécurisés. On l'a fait notamment au moment des attentats. On raconte qu'il y a des protocoles d'intervention des forces, des pompiers, etc. Et que tout est absolument encadré, que la communication de crise est théorisée, mise en application avec des exercices récurrents. Et puis le jour où ça arrive, ça flotte. Alors, c'est normal, peut-être.
C'est pas normal, mais c'est une évolution. C'est-à-dire que tout évolue. Les réglementations évoluent, les sinistres permettent de faire évoluer les réglementations. Et surtout, la manière dont on appréhende ce genre de sujet est vieillissante. Pourquoi ? Parce qu'on a donné aux populations des équivalents de flyers, de documents papier. Parce qu'on utilise encore des choses qui sont comme les réseaux sociaux. Ça peut permettre des informations, mais ce n'est pas une information fiable, claire et précise. Il y a des pays étrangers, on va prendre le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas, qui utilisent, eux, des systèmes qui envoient un message précis envoyé par le préfet directement sur tous les téléphones portables à 50 km autour du
site. Ça, on saurait faire, techniquement.
Eh bien oui, mais en fait, on ne s'est pas encore mis dans cette organisation-là qu'on doit faire évoluer. Et aussi, parce que, en termes de, vous le disiez tout à l'heure, en termes de communication, il n'y a pas une formation au niveau des préfectures qui soit homogène sur tout le territoire aussi sur ces sujets-là. Donc, on a un vrai décalage entre la théorie et la pratique qui doit évoluer avec les évolutions légales et pratiques.
Arnaud Conzac, sur cet aspect-là, sur la façon dont le gouvernement, l'État, les autorités, vous avez raison de parler aussi des autorités locales qui d'abord ont été aux premières loges et qui ont peut-être parfois été maladroites. Il y a eu des informations contradictoires. On a par exemple le président de la métropole, le vice-président de la métropole qui est écolo, qui dit on a l'impression que l'État filtre les informations. Alors si on a des gens qui sont des élus qui explique aux populations qu'on filtre des informations, on comprend qu'il y ait de la confusion.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'en l'occurrence, le gouvernement a été plutôt responsabilisant sur cette histoire. Depuis le début, alors que très souvent dans les histoires passées, on a tendance à dire « il n'y a aucun problème, ça n'arrivera pas ». Là, il faut reconnaître au gouvernement, et c'est une des premières fois à ma connaissance, qu'il a dit tout de suite « il ne faut pas consommer les produits animaux, le maraîchage, on fait attention, il y a des confinements, les écoles, ça n'arrive pas, on va immédiatement aller nettoyer, etc. » Donc d'une certaine manière, moi j'étais le premier à dire « ça change un peu. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il ne prend pas les gens pour des imbéciles, le gouvernement. Mais malheureusement, et c'est tout à fait normal, moi je ne crois pas à la culture du risque, quand c'est soi-même quand soi-même on inhale les fumées, je ne pense pas qu'on ait envie on a pas envie d'une culture du risque. Je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement des cafouillages, il y a quelque chose de très, on sent quelque chose de très hiérarchisé entre le Premier ministre, la ministre, le préfet, le machin, à une heure où effectivement les réseaux sociaux, ça va très vite, il y a des images qui circulent, il y a des propos qui sont tenus, tout est un peu à égalité dans la tête des gens. Et on a l'impression, effectivement, que les autorités ont encore une vision un peu dépassée des choses.
Avec, vous dites, des informations et des vraies fake news, des faux communiqués
des très bonnes
de
fake
la
news,
préfecture.
Enfin, des fautes d'orthographe, les fake news.
Avec tout le monde n'est pas forcément capable d'identifier des faux communiqués de la préfecture, avec des images qui venaient d'autres accidents de sites Céveso qui sont partis sur les réseaux sociaux. Et on va essayer de trier toutes ces informations. Et je rappelle qu'on attend toujours la liste dans les minutes qui viennent des produits qui ont effectivement brûlé dans ce hangar il y a 5 jours. En tout cas, cet après-midi encore, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de rassurer les habitants de Rouen et de la région. La polémique s'est installée sur l'absence de communication sur la nature des produits qui ont flambé jeudi dans les hangars de Lubrizol. Alors qu'hier, c'est la colère qui l'a emporté lors d'une réunion tenue et organisée par la préfecture. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
Ambiance électrique hier devant l'auditorium de Rouen. À l'intérieur, conseil d'agglomération avec les élus et le préfet. 5 jours après l'incendie, ces habitants chauffés à blanc exigent des réponses et tentent de forcer l'entrée.
C'est Lubrizol qui nous bombarde avec ses produits chimiques. Et on ne sait même pas quels sont les produits chimiques qui ont été brûlés.
On nous dit que c'est un nuage pas toxique. Ensuite, on nous dit qu'il y avait de l'amiante. On nous dit qu'il y avait du plomb. On nous dit qu'il y a du benzène.
Parce qu'on est en train de nous dire beaucoup de choses, mais on ne connaît pas toute la vérité, donc on devrait savoir ce qu'on risque, en fait.
Un climat de défiance renforcé par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Comme ce faux communiqué de l'ARS fabriqué de toutes pièces. Il évoque des effets dangereux pour la santé ou ces photos d'oiseaux morts. Ou bien encore ces vidéos inquiétantes.
C'est un peu bizarre, non ?
Les autorités sanitaires démentent, ces cas d'eau noire seraient très isolés et l'eau bien potable.
Ah ouais !
Pourtant, le doute s'installe. 5 ministres se sont rendus sur place en quelques jours. Le gouvernement tente tant bien que mal de rassurer une population prise de nausées, de maux de tête. Hier, au tour d'Edouard Philippe, d'aller sur le terrain.
Je ne dis pas que les odeurs ne sont pas gênantes, encore une fois. Je vous dis simplement ce que disent les analystes qui m'expliquent qu'elles ne sont pas nocives et qu'elles sont gênantes. Voilà. C'est tout à fait le sens des analyses qui nous sont données. Un certain nombre d'autres analyses doivent arriver au fur et à mesure qu'elles sont réalisées. Nous ne pouvons pas donner les résultats avant qu'elles soient terminées. Mais dès qu'elles seront réalisées, nous donnerons et nous communiquerons l'ensemble des résultats.
Jeudi, un spectaculaire incendie ravage l'usine Lubrizol. Le feu éteint, c'est maintenant la polémique qui enflamme les politiques. Pour certaines voix de l'opposition, l'opération transparence du gouvernement serait un écran de fumée.
Depuis vendredi, vous savez, dans l'usine se trouvait de l'hydroxyde de potassium, une substance corrosive pour la peau, les yeux et surtout les voies respiratoires. Oui ou non, mesdames, messieurs les ministres, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Oui ou non? Depuis vendredi, vous savez, comment expliquez-vous que c'est seulement aujourd'hui que peut-être le préfet va rendre publique cette liste?
Cet après-midi, Édouard Philippe a effectivement annoncé la publication de la liste des produits dangereux qui ont brûlé. Mais trop tard, aussi pour Delphine Bateau. Elle était ministre de l'Environnement en 2013. À l'époque, la même usine a connu un incident. Avec plusieurs députés, elle demande une commission d'enquête parlementaire.
Le problème, c'est que cette culture de l'État, en matière de risques industriels, de risques technologiques, de risques qui ont un impact sur la santé, sur l'environnement, donc écologique, c'est une culture de la relativisation. Quand, par exemple, a été posée la question de l'impact de cette pollution sur la nature, sur la faune, sur la flore, le préfet a répondu « la pluie fera le nécessaire ». Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Donc non, on ne peut pas faire des réponses aussi légères.
Chercher des réponses et pour certains, chercher des responsables. Une trentaine de riverains ou commerçants de Rouen ont déposé une plainte, notamment pour mise en danger d'autrui ou préjudice financier. L'ancienne ministre de l'écologie, Corinne Lepage, a elle aussi saisi la justice pour avoir accès à un maximum d'informations.
Il y a beaucoup de questions. De questions sur les conditions de fonctionnement de cette installation, de ces autorisations. Certaines auraient été délivrées très récemment, sans études de risque préalable, sans évaluation environnementale préalable. Tout ça pose question. Donc, nous avons, avec l'association Respire et une centaine de personnes physiques, décidé de demander au président du tribunal administratif de Rouen de nommer un expert dans des délais très courts.
Une manifestation est prévue ce soir devant le palais de justice de Rouen. Quelques heures avant la révélation par les autorités de nouveaux résultats d'analyse concernant la pollution.
Et cette question qui nous est posée ce soir, pourquoi ce sont les politiciens qui communiquent sur cet accident et pas la direction du site ?
Elle a communiqué.
Il n'y a pas que les politiciens, les préfets ont communiqué. Et il y a eu une communication aussi du directeur du site qui a annoncé une plainte pour destruction involontaire à un événement qui serait venu de l'extérieur de l'usine. Donc ils ont communiqué sur le fait qu'ils saisissaient aussi la justice.
On entendait Delphine Bateau dire qu'il y a la culture de la relativisation. Est-ce que quand on est aux responsabilités, on peut arriver en disant « Mon Dieu, c'est très grave, restez chez vous
». C'est le rôle des pouvoirs publics. Ils sont bien obligés de relativiser pour éviter les mouvements de foule, puis essayer éviter les paniques et puis essayer d'être dans la raison, si tant est que ce soit possible. Sauf que c'est impossible parce que il y a un manque de culture scientifique, il y a un manque de culture du risque. La chimie véhicule beaucoup de fantasmes. Donc dès qu'on parle de benzène, dès qu'on parle d'hydrocarbures, on imagine toujours un risque majeur.
Parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
On mélange le danger et le risque. On mélange la toxicité immédiate aiguë avec la toxicité sur long terme. Tout ça fait peur. La chimie fait peur. L'industrie a toujours fait peur. Raison pour laquelle on a délocalisé largement nos entreprises pour aller polluer ailleurs. Et on se retrouve aujourd'hui avec une méconnaissance, avec une peur nourrie de fantasmes qui fait qu'on est terrorisé, peut-être pour pas grand-chose. Et là, on est terrorisé et je crois qu'il n'y a personne qui est capable véritablement de communiquer correctement dans ces moments-là.
Alors, moi, j'ai des questions très, très simples. Quand le Premier ministre dit « les scientifiques », il parle de qui ? C'est qui les scientifiques ?
On les voit pas.
C'est important. Il a l'air de s'appuyer sur des enquêtes. Ces enquêtes ont-elles été menées le jour même, dans les jours qui viennent ? Dites-nous un petit peu comment les choses se passent techniquement.
Techniquement, vous avez le préfet qui est en charge de la région. À ce titre-là, le préfet a une équipe technique qu'on appelle la DREAL, qui sont les inspecteurs de l'environnement aujourd'hui, qui ont certes à contrôler les sites pour vérifier si tout va bien ou si tout va mal et mettre des pénalités, mais qui sont aussi un soutien technique pour le préfet en situation de crise.
Ils sont rattachés au ministère.
Exactement. Ils sont rattachés au ministère de l'Environnement. Et à ce titre-là, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a des vrais scientifiques à l'intérieur des organes de l'État qui sont complètement en capacité. Et ceux-là, c'est ceux qui ont, entre autres, participé à l'analyse des documents qui ont été fournis par la préfecture sur son site en ligne.
Ça veut dire que cette parole-là est suspecte pour les habitants de Rouen parce qu'elle vient, pardon, mais oui. parce qu'elle vient d'une agence qui dépend du gouvernement.
Et voilà.
Oui, mais ouais. alors.
Ce qui est intéressant, c'est aussi dans le référé qui a été mis en place par Corinne Lepage, qu'on a vu dans le reportage, c'est qu'il demande une expertise indépendante. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît un signe des temps très, très fort aujourd'hui, très contemporain, c'est qu'il y a des prélèvements citoyens. C'est-à-dire, l'association qu'elle représente, Respire, va organiser avec une centaine de personnes ce qu'elle appelle les prélèvements citoyens. C'est-à-dire, monsieur et madame tout le monde à Rouen va aller prélever des galettes, va aller prélever des suies avec un huissier, pour montrer, parce qu'il prévoit déjà, à tort ou à raison, il prévoit déjà que les expertises officielles, de toute façon, seront
sujet à caution. Il paraît que les prélèvements, justement, individuels étaient interdits. C'est-à-dire que les seuls prélèvements qui vaillent sont les prélèvements qui sont gérés, organisés par les organisations de l'État.
Mais c'est logique.
Alors, c'est logique, oui.
C'est sûr que la loi précise qui doit faire quoi. Il y a effectivement les services de la DREAL en situation d'urgence. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on dise que les experts, les scientifiques ne sont pas indépendants. Il y a d'autres services qui viennent. Il y a notamment la cellule risque chimique des pompiers, le service d'incendie départemental incendie-secours. Et il y a aussi l'INERIS, qui est un établissement qui, certes, dépend de l'État, mais qui est indépendant, avec des scientifiques et une cellule en urgence qui va être dépêchée sur site, qui va aider l'industriel à essayer de maîtriser l'incendie. Je veux dire, il y a plusieurs corps d'experts qui interviennent, pas un seul, et ces gens-là sont quand même des gens de haut niveau et compétents. Personne ne remet en cause leurs compétences. Bah, le problème aujourd'hui, c'est qu'on public. Les...
C'est ça, c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Vous dites le grand public, il suffit d'aller voir sur les réseaux
public,
sociaux
pour
se rendre compte qu'il y a des gens qui considèrent que, de toute façon, les vrais prélèvements n'ont pas été effectués le bon jour, qu'on leur a demandé d'attendre, que ces organisations-là ont intérêt à cacher la vérité pour je ne sais quelle raison.
Oui, mais...
C'est pour ça que je vous pose des questions très simples, très basiques sur les gens qui sont derrière ces analyses.
Il n'y a pas de protocole scientifique, à ma connaissance, en matière de Céveso qui détermine comment, à la suite d'une explosion de ce type-là, est liée à un panache, parce qu'on est sur, en plus, un risque nouveau pour des juristes, hein, qui est celui du panache, comment effectivement il faut procéder. L'expert a un devoir lui-même de respect des règles de l'art, hein, ça c'est ce que nous dit le juge, et il doit justifier de son travail. Mais il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut que tu fasses exactement comme
ça. Alors
c'est
comme on analyse quoi en ce moment ? La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols
Les suies qui sont déposées sur les légumes, sur les sols, un peu partout. Et on va voir, j'en suis persuadé, on va voir des traces de dioxines et de furanes qui sont des produits liés justement à la combustion à très haute température des hydrocarbures qui étaient dans l'usine. Ça ne va pas être très surprenant.
D'accord.
Le problème, c'est le taux et ensuite...
Non, mais parce que je reprends, pardon, des choses qu'on a entendues et qui sont sujets à rumeurs. On a entendu, attention, ne manipulez pas sans gants, ne faites pas le ménage de ces suies-là sans vous protéger. Et en même temps, on dit, ça ne risque rien, on n'a pas d'informations sur la qualité de l'eau et on vient de voir dans les images.
Ça, c'est une communication consternante. Enfin, on le connaît, le risque. C'est à peu près le même type de risque qu'on a sur les marées noires. Quand, moi, je me souviens, l'Erika, d'accord. on avait des gens qui venaient essayer de sauver les oiseaux sans gants, sans rien du tout. Et le lendemain, ils avaient ce qu'on appelle une chloracnée, c'est-à-dire qu'ils avaient des manifestations épidermiques, des rougeurs sur la peau. C'est logique, ce risque-là, on le connaît.
D'accord.
Mais alors, de dire qu'il n'y a pas de risque, c'est complètement fou, évidemment qu'il y a un risque. Mais le bon sens devrait amener justement ne surtout pas toucher à ces produits-là, surtout pas toucher aux suies qui, sans vouloir affoler, sont classées cancérigènes. On le sait, ça, de toute façon.
Ça, on le sait. Et ça peut être classé cancérigène parce qu'on le touche, mais ne pas poser de problème pour l'inhalation.
Non, c'est surtout l'inhalation.
Ah, c'est surtout l'inhalation.
L'inhalation, l'ingestion.
D'accord.
Après, c'est des problèmes de toxicité juste sur la peau.
Arnaud Conzac.
Oui, moi j'ai trouvé très intéressant aussi que les syndicats de policiers donc, qui sont intervenus, eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme en disant on a vu des policiers. Voilà,
forces
de l'ordre, sans protection.
Sans protection.
Et qui tirent la sonnette d'alarme en disant mais même ce qui est censé représenter l'État tout-puissant, vaillant, fort, eux-mêmes, ils avaient pris de nausées, de vomissements et ils disent attendez, vous avez exposé nos hommes à des trucs pas possibles. On est vraiment dans quelque chose de
et ça veut dire que ce n'est pas préparé non plus lorsqu'on intervient sur un site classé Céveso, les pompiers, les premiers à intervenir doivent être protégés.
Oui, bien sûr, il y a un plan particulier d'intervention, mais ce qui est fou, c'est que j'entendais qu'il y a une polémique qui est en train de naître à la suite de déclarations d'une déléguée syndicale du site sur l'existence même d'un plan particulier d'intervention. J'ose espérer qu'il y en avait un, c'est obligatoire, qui décrit effectivement, mais c'est vrai que les témoignages sur place sont quand même troublants. L'incident se fait à 2h40, aux alentours de 2h40, et les riverains qui ont été interrogés par vos confrères, décrivent que les informations arrivent en fait au petit matin, c'est-à-dire plusieurs
heures. Avec une alarme qui se déclenche beaucoup plus tard.
Exactement. Et donc en fait, tout d'un coup, pendant une partie de la nuit, des personnes riveraines assistent aux flammes et ne savent pas ce qui se passe, se sentent abandonnées à ce moment-là. D'où la colère aussi aujourd'hui qu'on peut comprendre.
Yes. pour moi, ça, c'est lié aussi à un mélange dans la communication. Elle n'est pas précise. Une communication précise serait plus technique et permettrait d'éviter toutes ces questions qui, en fait, mélangent un petit peu beaucoup de choses techniquement.
Par exemple, un exemple
très concret, quand vous parlez de mettre les mains dans les pollutions. Dans les polluants, il y a deux familles de polluants, techniquement parlant. Il y a les familles de polluants qu'on appelle cancérigènes, où il faut une exposition long terme, c'est-à-dire il faut respirer régulièrement des poussières d'amiante quand on est un travailleur, typiquement, et des pollutions chroniques, enfin, ou l'inverse, qui vont être ponctuelles, toxicité aiguë, et celles-là, on pourrait plus creuser la mort des gens dès le jour même de l'explosion, et c'est ça qui a interpellé les pouvoirs publics, c'est juste dans la manière dont ils communiquent à ce sujet, au lieu de nous dire, nous avons vérifié d'abord la pollution aiguë, il n'y a pas de risque. Nous allons travailler sur la pollution chronique long terme.
Oui,
nous allons travailler sur tel sujet et tel sujet. Ça manque de précision, ça manque de technicité. Parce qu'en fait, les gens ont besoin de connaître les noms des substances pour se rassurer. De connaître, c'est un petit peu, je vais vous faire un rapprochement. Vous avez un enfant qui saigne. Si vous lui dites, tout va bien, ne t'inquiète pas, tu ne vas plus saigner. Ça ne rassurera pas. Si vous lui dites, je vais te mettre un bandage, je vais te soigner, je vais m'occuper de tout ce qu'il faut pour arriver à une solution, là, vous allez régler la question.
Il ne suffit pas de dire que tout va bien.
Exactement. Aussi. Il faut expliquer.
Et d'ailleurs, vous disiez, ils veulent savoir les noms. La question qui est posée depuis 5 jours, c'est pourquoi on n'a pas la liste des produits qui ont brûlé jeudi soir dans les hangars de ce site, encore une fois, classé Céveso. C'est pas rien. Plutôt, en plus, Céveso, seuil haut, donc vraiment avec un danger pour les populations alentours. Là, depuis quelques heures, on explique que c'est lié à une circulaire de 2017 concernant les actes terroristes. Donc ça veut dire que le gouvernement et que l'entreprise n'avaient pas le droit de donner la liste de ces produits pour des raisons de sécurité ?
Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'information dont dispose l'administration et risque terroriste ou pas, peu importe. L'exploitant industriel doit en permanence indiquer, je dis bien en permanence, pas ponctuellement, quelles sont les substances, les matériaux qu'il utilise, qu'il manipule, dans quelles conditions. Il y a un devoir d'information permanent de la part de l'exploitant industriel auprès de l'administration.
Donc, ça a l'air très clair pour vous, mais ça veut dire qu'au quotidien, ça veut dire que cette entreprise disait à la préfecture, on a tant de fûts de je ne sais pas quoi dans nos hangars, c'est ça, c'est au quotidien ?
C'est dès qu'il y a une modification dans l'activité du site. Là, par exemple, au mois de juillet, les prescriptions de fonctionnement de cette usine ont été actualisées par le préfet. Le préfet a repris un texte à destination de cette usine pour actualiser les prescriptions de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que cette usine, il y a quelques mois, a demandé une augmentation de la capacité de stockage de ces matières dangereuses. Donc l'administration a instruit ce dossier-là et l'administration a estimé à cette occasion-là qu'elle n'avait pas besoin de demander à l'exploitant une actualisation de son étude d'impact, c'est-à-dire un document qui décrit tous les risques éventuels de cette activité professionnelle. L'administration s'estimait suffisamment informée et elle n'a pas demandé d'étude d'impact. Aujourd'hui, cette même administration nous dit attendez, je n'ai pas la liste, on va vous donner la liste. Alors, risque terroriste ou pas, eux, ils doivent être informés, évidemment. Après, que nous ne soyons pas tout de suite informés, il faudra le justifier. Parce qu'il y a déjà...
C'est un problème, ça, pour vous, Arnaud Gossemont, le fait qu'on ait attendu 5 jours pour savoir ce qui avait brûlé ?
Oui, c'est un problème, surtout le sentiment que l'administration elle-même découvre qu'il y a sur site. Par exemple, le toit en amiante, le préfet nous dit, nous avons découvert qu'il y a un toit en amiante qui a brûlé. Mais il devrait le savoir avant, ça. Très sincèrement, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Ce sont des informations dont on se demande pourquoi l'administration semble parfois les découvrir. C'est peut-être un problème de communication, mais c'est quand même très étrange. Le dossier, encore une fois, a été instruit au mois de juillet dernier.
J'irais même au-delà de ça. Allez-y. C'est-à-dire que le Code du travail impose à un site industriel de tenir en permanence un listing de tous les produits chimiques présents sur le site avec les classes de danger, c'est-à-dire la dangerosité de chacun des produits, la quantité de produits entrant-sortant, les bonnes pratiques industrielles aujourd'hui, c'est de savoir exactement la quantité de chaque produit présent sur site. Pourquoi ? Justement dans ce dont on parlait tout à l'heure, qui est d'anticiper un incendie, un accident, pour pouvoir fournir cette liste aux pompiers. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en permanence et qui fait partie de la vie d'un site. Donc aujourd'hui, pour moi, il est irréaliste de penser que la liste n'existait pas. Ou alors c'est qu'il y a une faute majeure d'un point de vue purement code du travail.
Et puis d'autant plus que sur les sites Céveso 3, le CHSCT est informé encore mieux que dans toute autre usine. Donc de toute façon, l'information circule, donc ça paraît très étrange. Oui. Et puis comme le disait Arnaud, voilà, on a ce toit avec l'amiante, donc ça ne peut que réveiller.
Mais quel est l'intérêt pour le gouvernement de garder pour lui une liste comme celle-ci ? Je veux dire, si on se met de l'autre côté.
Peut-être qu'il voulait être sûr, peut-être qu'il ne voulait pas paniquer les gens en délivrant des informations, des noms de molécules qui de toute façon allaient faire peur, mais le résultat, c'est que ça va être pire que tout. Il aurait mieux fait de le dire.
Peut-être qu'il y avait une information utile, qui est de savoir la différence entre ce qu'il y avait sur le site et ce qui a brûlé. Et là, le gouvernement avait besoin de temps, tout simplement, pour évaluer la quantité de produits restants.
C'est ça d'ailleurs qu'on devrait apprendre dans les heures qui viennent, c'est qu'est-ce qui a brûlé et en quelle quantité. Bon, ouais. Ça, c'est ce qui a été promis. Non, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'une des rares substances qui a été nommée par le ministre, en l'occurrence Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, c'est l'amiante.
Oui.
Je pense que vous ne pouvez pas faire pire comme mot.
C'est-à-dire que ça amiante, fait peur à tout le monde.
C'est déni généralisé d'un État qui était au courant de la dangerosité pendant des décennies de ce produit. Absence d'indemnisation des victimes de l'amiante, donc qui sont des milliers. Enfin, je veux dire, si vous voulez employer le mot qu'il ne faut pas employer, ou alors qui va faire éveiller toutes les suspicions, c'est vraiment le mot amiante qu'il faut
alors employer. Il aurait suffi de dire l'amiante, c'est dangereux, sauf que là, il a brûlé, donc il est devenu inerte. Il n'est pas parti dans l'atmosphère, corrigez-moi si je me trompe. Pourquoi on n'a pas dit ça, tout simplement?
Encore une fois, on revient à la com. Juste pour revenir sur cette circulaire liée aux attentats terroristes, parce qu'on en a fait des émissions ici sur les questions terroristes, et là, pour le coup, à chaque fois, c'était une préoccupation de dire est-ce que ces sites-là sont protégés des risques terroristes. Ça se justifie de dire non, on ne va pas communiquer sur le contenu des produits qui sont stockés dans des entreprises comme celle-ci parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à des terroristes. Elle existe, cette circulaire. On ne l'a pas sortie. Ce n'est pas une invention de ces dernières heures. Quoi.
Non, cette circulaire décrit des recommandations, des pratiques. Hein. Ce n'est une circulaire, ce n'est pas une règle de droit. Bref, sans rentrer dans les détails. D'abord, je répète, l'administration devait être au courant. Or, elle nous semble nous dire qu'elle n'était pas au courant. Qu'elle ne communique pas sur le risque terroriste, pourquoi pas, mais ça sort hier, pourquoi elle ne nous dit pas beaucoup plus tôt, c'est-à-dire le matin même de l'explosion. Excusez-moi, je ne peux pas tout de suite vous dire ce qu'il y a sur le site, parce qu'il y a peut-être un problème terroriste. Ce qu'ils ne font pas, ça sort un peu, on a l'impression que c'est pour justifier ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui que ça sort cette histoire.
Est-ce
de risque
terroriste. Est-ce que les riverains sont formés quand on vit à côté d'un site comme celui-ci? Est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on est, par exemple, au courant, puisque l'administration l'est, des produits qui sont stockés? Oui.
Normalement, oui.
Oui, on est informé déjà au moment de l'acte qu'on l'achète, puisqu'on a une obligation via le notaire d'avoir une information sur le fait qu'on est dans un périmètre de site Seveso. Et après, il y a des campagnes régulières, justement ce dont vous parliez quand vous parliez d'organisation, il y a des campagnes régulières d'information. C'est pour ça que je vous parlais de flyers et de documents papier sur ces informations. Ouais. Et c'est là où je pense qu'on peut clairement progresser dans la manière dont on informe les populations autour. Après, on a un tissu urbain là qui est très proche de l'usine et lié à l'histoire de l'industrialisation en France où on ne peut rien faire contre ces sujets-là. Donc, bien sûr, il y a des plans de prévention, des risques technologiques qui sont en place pour essayer. Donc, c'est un plan d'urbanisme, en fait, qui va mettre des règles autour des sites industriels à risque majeur, comme un Seveso, seuil haut, pour dire, vous riverains, en cas de risque, il faut que vous soyez plus informés, il faut que vous soyez, au pire, éliminé de cette zone-là pour ne pas pouvoir être éliminé physiquement le jour où il y aurait un vrai problème. Et dans ces cas-là, on essaie de les informer. Mais la qualité de l'information n'est pas aujourd'hui suffisante.
Et puis qu'est-ce qu'on fait tous de l'information? En théorie, par exemple, quand vous achetez une maison près d'une rivière, vous êtes tenu informé du risque d'inondation. Mais qui en tient compte vraiment? Et on finit par s'habituer à l'absence de matérialisation du risque. Donc on peut donner toutes les informations qu'on veut. Si on ne revient pas dessus régulièrement, le risque, on finit par l'oublier et malheureusement, on finit par être surpris.
Mais ça veut dire que vous parliez de l'étranger. À l'étranger, il y a des formations régulières, par exemple, des riverains sur comment agir lorsque on a un incendie qui se déclenche sur un site comme celui-ci, évacuation, pas évacuation. Là-dessus, il y a une doctrine française, il y a quelque chose, des leçons à tirer?
Non, la doctrine française, c'est l'information de manière à permettre aux citoyens de se déterminer. Vous avez raison de rappeler qu'il y avait un plan de prévention des risques technologiques sur ce site. Mais vous avez aussi raison de rappeler que c'est un vieux site qui date de 1954. Et le plan de prévention qui est censé décrire comment on doit vivre ou ne pas vivre autour de ce site, lui, il date de 2014. Et il est à peine mis en vigueur. En fait, ça fait 2 ans, grosso modo, que les plans sont à peu près au complet et qu'on commence à les mettre en œuvre. Le problème aujourd'hui, c'est que donc concrètement, sur l'urbanisation autour de ces sites, on ne fait pas grand-chose. Mais si on ne fait pas grand-chose, ce n'est pas uniquement à cause de l'État. C'est aussi parce qu'il y a des maires qui veulent urbaniser, c'est aussi parce qu'il y a des citoyens, vous avez raison, qui n'en font rien de cette information. Moi, j'ai déjà des confrères avocats qui m'ont dit qu'ils avaient été saisis par des citoyens vivant à quelques mètres de ce site de demandes de recours contre les plans de prévention des risques technologiques. Pourquoi? Parce que ça fait baisser la valeur des maisons, de savoir qu'on est en zone rouge. Donc il y a une co-responsabilité, il n'y a pas que...
Il y a un aspect psychologique. Moi, j'ai enquêté un petit peu sur les centrale nucléaire. Ouais. Vous savez, normalement, aujourd'hui, il y a un périmètre autour d'une centrale nucléaire qui a été longtemps de 10 km, qui maintenant est 20 km autour d'une centrale nucléaire. Il y en a beaucoup en France, dans laquelle, normalement, vous devez notamment recevoir un certain nombre d'informations et des cachets pour vous protéger.
Voilà. Ouais. Capsule d'iode.
Des pastilles d'iode. Il y a la moitié en France des gens qui ne vont pas chercher, qui habitent dans ces périmètres-là, qui ne vont pas chercher ces pastilles d'iode-là. Parce que quand on vit près d'un site à risque, on n'a pas forcément envie d'imaginer qu'il y a vraiment un risque. Ça, c'est un aspect assez psychologique, collectif, quoi, aussi.
Et aujourd'hui, ces personnes-là, j'ai vu cet après-midi que des chauffeurs de bus avaient décidé de porter plainte. Il y a la volonté chez certains habitants désormais de se retourner contre X pour l'instant ou contre l'entreprise en se disant ben, on a été sous-informés et on n'a pas eu les informations nécessaires.
Je ne voudrais pas que les gens pensent que le juge a une baguette magique. L'affaire de la AZF explose en 2001. Oui. La Cour de cassation va se prononcer sur cette affaire le mois prochain. Donc, je veux dire, les procédures sont assez longues. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une indemnisation rapide des agriculteurs. Ce n'est pas le juge qui peut le faire.
Et un suivi.
Et médical. Une enquête administrative sérieuse et transparente.
Et on va en parler du suivi médical sur le long terme qui a été réclamé aujourd'hui à l'Assemblée nationale au Premier ministre. En première ligne, on retrouve, vous en avez parlé une nouvelle fois, les agriculteurs, le principe de précaution a conduit à geler la récolte et à détruire les stocks de lait dans une vaste zone au nord-est de Rouen. Et à Rouen, le ministre promet une indemnisation totale. En attendant, vous allez le voir, certains exploitants font eux-mêmes, on l'a dit tout à l'heure, les prélèvements, les analyses pour connaître l'étendue des dégâts. Myriam Zéhar, Victoria Rouxel et David Lemarchand.
Dans cette exploitation, à 25 km de Rouen, cette productrice de lait a dû très vite s'adapter aux conséquences de l'incendie de Lubrizol.
On est obligé de confiner nos animaux. Donc normalement, elles sortent dans 20 hectares d'herbe derrière, là. Et du coup, depuis jeudi, c'est à l'intérieur, voilà. On ne peut plus les sortir.
Une centaine de vaches confinées dans l'étable et du lait dont elle a dû se débarrasser suite à un arrêté préfectoral. 6400 litres au total, soit 2 jours de traite, environ 2000 euros de perte. Faute de consigne, elle a même déversé son lait sur une de ses parcelles. Un épandage que l'agricultrice a filmé.
Personne n'est venu collecter notre lait pollué. Voilà. Donc nous avons l'obligation de le détruire. Voilà. Hier, nous avons mis 6400 litres comme ça dans la nature, en fait. Donc nous avons peut-être repollué nos terrains.
Pour connaître ce que contient précisément son lait, l'agricultrice a recueilli des échantillons et a sollicité le laboratoire choisi par la préfecture. Selon elle, l'établissement a refusé d'analyser ses prélèvements.
On espère pouvoir faire analyser notre lait. Enfin, voilà quoi. Pourquoi on n'a pas le droit d'analyser notre lait? Pourquoi ce labo ne veut pas analyser notre lait? Voilà. Donc peut-être qu'on partira même à l'étranger faire analyser le lait.
Des agriculteurs inquiets, d'autant que d'autres produits sont concernés. Dans le village voisin, les consommateurs sont devenus vigilants.
Effectivement, nous, nos fermes sont, on va dire, en restriction. Même si le nuage n'est pas passé par rapport à eux, nous, ils l'ont été d'office. Donc plus d'œufs, plus de poules, plus de légumes. Donc bon, on essaye de faire comme on peut.
Je fais confiance à mon petit épicier. Je vais lui demander si les produits sont locaux ou pas locaux. Mais je pense, comme il y a eu des restrictions, que les agriculteurs ont respecté les prescriptions et je vais acheter ce que je trouve.
Des exploitations à plusieurs centaines de kilomètres de Lubrizol auraient également été impactées. Le nuage s'est en effet déplacé dans d'autres zones du nord de la France. Comme ici dans l'Aisne, à 250 km de l'incendie. Cet éleveur a lui aussi dû jeter sa production.
Ça représente 2 jours de traite, ça représente 3400 euros. Ça me fait quand même mal au cœur, c'est 2 jours de travail pour rien.
Son champ de maïs, qui sert à nourrir ses bêtes, a lui aussi probablement été pollué.
J'ai un doute. Je fais des petites taches noires. S'il est avéré que notre maïs est vraiment toxique, je pense qu'on ne l'ensilera pas. Et ça, pour nous, c'est catastrophique, on ne peut pas s'en remettre. Ça veut dire qu'on perd l'alimentation de nos vaches pour tout l'hiver.
Des craintes auxquelles le ministre de l'Agriculture a tenté de répondre hier, en visite sur une exploitation située non loin de l'incendie, où il rencontre quelques producteurs.
Vous allez être indemnisé, vous allez avoir des avances. Et puis, c'est le principe de pollueur-payeur. C'est pas aux contribuables français de payer pour quand il y a une catastrophe. Donc, il faudra, le moment venu, ça prendra du temps, mais que l'entreprise qui est responsable de cela paye. Entre-temps, il faudra faire le lien avec les assurances, avec l'État, avec les sources agricoles. C'est ce que nous voulons faire. Mais c'est la première chose que je voulais vous dire. Vous êtes des victimes.
Au moins 1800 producteurs auraient été touchés. Le ministère de l'Agriculture promet une indemnisation sous 10 jours.
Nous allons redire un mot des agriculteurs. Cette question, la qualité de l'air est bonne, mais pas celle du lait ou des cultures. C'est une question que se pose Christian dans le Morbihan. Et on se l'est tous posé, cette question.
Parce qu'il y a des dépôts, il y a des dépôts de suie, il y a des dépôts d'hydrocarbures, sans doute, voire d'autres choses, on verra bien. Et de fait, ce que produisent les agriculteurs n'est plus vendable parce que ça n'est plus consommable. Donc pour eux, c'est une perte énorme.
Mais pourquoi le lait plutôt que l'eau? C'est ça la question que pose parce que dans Christian.
Parce que ces produits-là, on suppose qu'ils aiment beaucoup... ils font partie d'une famille chimique qui aime bien les graisses. Donc forcément, ils vont se concentrer dans le lait. Voilà. Et donc du coup, le lait est impropre à la vente. C'est 137 000 hectares de surface agricole utile qui ont été touchés. C'est 20% de la SAU en Seine-Maritime. Même à côté de chez mon père, on a vu le monsieur, là, il a 20 km de
c'est
chez
quoi,
mon père.
C'est quoi la SAU?
La SAU, pardon, surface agricole utile.
D'accord.
À côté de chez mon père, là, on est quand même loin, à 250 km.
Il est où, votre père?
Il est à Caudry, dans le Nord. Et là, vous traversez la frontière, parce qu'il y a une frontière, c'est la nationale, vous arrivez dans l'Aisne. Ah voilà, le panache, il n'aurait fait que quelques kilomètres. Non, le panache a fait 250 kilomètres. La conséquence, c'est jusqu'à 250 kilomètres, on va mesurer une dépréciation des produits agricoles. Et quand le ministre dit « vous serez indemnisé sur 10 jours », mon œil.
Pourquoi? Pourquoi mon œil?
Parce que l'État n'a pas les moyens, parce que le système assurantiel agricole est compliqué. Donc ils vont se retrouver le bec dans l'eau avec tous leurs autres problèmes. Et ce que disait l'agriculteur est très juste, c'est que là, on va affronter... Ils ont déjà eu du mal avec la canicule, avec le foin qui est moins présent, parce que la canicule a fait que le foin était moins produit. Et là, ils vont se retrouver avec l'impossibilité de mettre en stabulation, c'est-à-dire de fabriquer les aliments de l'hiver, à partir du maïs, qui vont être obligés de détruire. Donc la situation des agriculteurs se cumule.
Mais ce qui est curieux dans cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression que le principe de précaution est extrêmement sévère pour les agriculteurs.
Parce qu'ils produisent des alimentations.
À une distance extrêmement éloignée.
Parce qu'ils produisent des
aliments. Et que sur la question, on se posait la question de l'eau, par exemple.
Oui, là, c'est un mystère, oui.
Ça reste un mystère.
Alors, sur l'eau, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que sur le site de la préfecture, on a un communiqué nous disant bien que l'eau potable est bien potable. Pour autant, nous n'avons pas d'analyse d'eau disponible sur le site de la préfecture. Or, pour assurer la potabilité, il faut s'assurer de que les analyses sont conformes aux seuils légaux.
Donc, si elles existent, elles n'ont pas été communiquées, c'est ça que vous dites.
Exactement. Ouais. Et sachant qu'il y a la potabilité de l'eau, ça c'est le premier sujet qui est un sujet sanitaire, mais après, il y a l'eau pour les écosystèmes, c'est-à-dire la faune et la flore. Alors, on parlait un petit peu de flore sur l'aspect alimentaire pour l'homme, mais on parle d'écosystèmes avec des êtres vivants qui peuvent être impactés aussi.
On connaît les effets de ces substances-là, on ne les connaît pas dans le détail, je vais vous en donner quelques-unes, puisque le préfet en a communiqué quelques-unes, mais on connaît les processus, les conséquences que ça peut avoir pour la santé, pour l'alimentation, oui.
Bien sûr. Alors, sur les substances qui ont été listées et qui ont été recherchées pour l'instant, on parle d'hydrocarbures, donc deux grandes familles qui sont les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, et les BTEX, qui sont le benzène, dont on a beaucoup parlé, le toluène, l'éthylbenzène et le
xylène. Il y a une émission sensible du benzène qui va faire l'objet d'un suivi, a dit le préfet à l'instant.
Très bien. Et après, il y a une autre famille, ce sont les métaux lourds, et il y a eu un sujet sur le plomb, puisqu'on a retrouvé des quantités assez importantes de plomb, à proximité d'écoles notamment. Donc c'est une de ces raisons qui a fait justement que les écoles ont été fermées et qu'il y a eu une mise en sécurité des zones et un nettoyage des zones. À mon avis, c'est sur l'aspect plomb, parce que le plomb, c'est important pour les enfants. On en parle beaucoup à titre personnel de ce sujet.
Est-ce qu'il y a une substance qui est redoutée par les pouvoirs publics?
Les dioxines. La famille de molécules issues de la combustion des hydrocarbures qui a fait que Céveso est devenu ce que c'est, que Céveso est un problème sanitaire énorme. Ce sont des molécules cancérigènes strictes, ce sont des molécules qui génèrent des problèmes à n'en plus finir au niveau de l'embryon, etc. Enfin, je veux pas aller plus loin pour ne pas faire peur aux gens qui nous écoutent. Et c'est des produits qui agissent au picogramme, c'est-à-dire à l'équivalent d'une cuillère à soupe dans une piscine olympique. C'est pour ça que c'est difficile de les mesurer, parce qu'ils sont à peine décelables, et en plus les études coûtent cher, prennent du temps, etc. C'est ça qu'on redoute. Après, c'est toujours la question de l'exposition. Ce n'est pas parce que vous êtes exposé immédiatement, tout de suite, à une infime quantité de dioxine, que vous aurez un cancer ou que vos bébés auront un problème dans 25 ans. C'est très difficile à mesurer, c'est pour ça qu'il faut un suivi. Ce qui avait été fait à Céveso, à l'époque, en 1976, pendant 25 ans, il faut qu'il y ait un suivi.
Céveso, c'était en Italie, hein?
C'était le 10 juillet 1976, le jour du vote de la fameuse loi de protection de la nature, et on a mesuré vraiment les conséquences que 25 ans après.
Donc là, ça veut dire que le gouvernement ne fera pas l'économie d'un suivi de santé dans la région.
Oui. À tout le moins, enfin, il faut qu'il y en ait un.
Alors parmi les produits qui ont été cités par le préfet à l'instant, donc vous avez, on a évoqué le benzène, on vous avait tout à l'heure parlé de l'amiante. Visiblement, selon le préfet, il n'y aurait pas de risque avéré à l'amiante, ce sont les mots précis, puisqu'il faut l'être qu'il a utilisé. Il a parlé de qualité de l'air habituelle. Est-ce que ça veut dire qu'elle est bonne ou mauvaise? En tout cas, elle est habituelle. Il a cité le terme de mercaptan. Alors là, visiblement, c'est une substance qui est utilisée
pour... C'est un gazodorant qui est fait pour détecter les fuites. Donc, il n'a pas de risque sanitaire majeur. Exactement. Et on avait déjà eu une fuite sur la même usine, voilà. Cette usine-là en 2013, exactement, où le mercaptan s'était senti entre Paris et Londres. Vous vous donnez l'ampleur. Mais il n'y avait aucune toxicité.
C'est ce qui explique les odeurs, mais pas de toxicité avérée.
Aucune.
Bon, et l'ensemble de la liste sera communiquée sur le site de la préfecture. C'est comme ça qu'il faut procéder maintenant, donner tous les détails des produits en précisant quand même qu'il y a 160 fûts qui sont dans un état délicat et qui restent à évacuer dans l'usine, vient dire encore une fois le préfet à l'instant.
Moi, je vous avoue que quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui...
Je ne suis pas sûre qu'on puisse vous aider.
On va voir.
Mais peut-être. C'est pourquoi aujourd'hui le préfet nous dit... qu'il y a un problème, qu'il y a un déficit d'informations, qu'il faut encore faire des investigations, qu'on découvre tout ça. Et pourquoi il y a quelques mois, je me répète, mais l'administration a considéré que ça allait si bien que ça, qu'il n'y avait pas besoin de demander une actualisation de l'étude d'impact, et a autorisé cet industriel à deux reprises d'augmenter le tonnage de matière à risque sur ce site-là. Je vous avoue qu'il y a une attitude ces derniers mois et une attitude aujourd'hui qui me paraît totalement contradictoire de la part de la préfecture. Mon hypothèse aujourd'hui, malheureusement, c'est que l'administration, tant du point de vue des moyens humains, 500 000 sites industriels, 1 200 inspecteurs en équivalent temps plein, tant du point de vue du code de l'environnement, qu'on a quand même beaucoup raboté ces dernières années pour faire plaisir, parce que, soi-disant, le code de l'environnement, c'était l'ennemi de la croissance. Je pense que la polémique va rebondir dans les mois prochains, se disant que c'est peut-être dans l'intérêt de personne, parfois, de supprimer certaines obligations d'information et d'évaluation. Et là, on a une préfecture qui semble effectivement être victime de ce rabotage du code de l'environnement.
Est-ce qu'il y a des cas d'école des histoires précédentes qui pourraient nous inspirer en France ou à l'étranger, en se disant, voilà, là, on a bien géré, là, on n'a pas géré. Parce que je vais au bout de ma question. Depuis quelques jours, tout le monde se dit, il y a une série qui marche très bien en ce moment, qui s'appelle Tchernobyl. tout le monde fait la comparaison, disant, oui, mais voyez, regardez, on envoyait des personnels qui n'étaient pas protégés, et puis on a caché les informations, et puis. Ça procède aussi de cette psychose et de cette panique qu'il y a pour une partie de l'habitation des habitants de Rouen.
Non, mais Céveso, ça a été très bien géré. Immédiatement, dans les mois qui ont suivi, on a évacué les gens, on a créé une zone d'exclusion un peu comme à Tchernobyl, c'est 1500 hectares. On n'a plus le droit d'y habiter jusqu'en 2040. On a excavé, comme on dit, le sol sur un mètre d'épaisseur pour le traiter tellement ce sol était gavé de dioxine. Et puis on a fait surtout ce suivi médical pendant 25 ans, ce qui aboutit à une bien meilleure connaissance des perturbateurs endocriniens. Je vous le fais très court. On a remarqué au bout de 25 ans, il n'y a pas eu de mort à Céveso. Il n'y a pas eu de mort. Il y a 804 vaches mortes, mais il n'y a pas eu de mort. Contrairement à ce qu'on pense intuitivement, on pense qu'il y a eu des morts, on pense qu'il y a eu des cancers. A priori, il n'y a pas eu de cancer. Bon. Ce qu'on a observé au bout de 25 ans, c'est que parmi les jeunes hommes qui étaient présents, les adolescents, pardon, qui étaient présents sous le nuage, qui ont respiré le nuage à Céveso, 25 ans après, ils ont eu 45% de filles en plus que la normale. C'est-à-dire que les dioxines ont perturbé ou bien la formation du sexe réel chez les embryons, ou bien ont modifié leurs spermatozoïdes. On ne sait pas trop les mécanismes. Voilà. Mais ça a été obtenu, et ça a été une révolution dans la recherche fondamentale, ça a été obtenu parce qu'il y a eu un suivi tout de suite. On a pris 300 hommes, 300 femmes en 1976, juste après ce qui s'est passé, et on les a suivis pendant 25 ans. C'est ça qu'il faut faire aussi également là, pour voir si demain, il ne va pas se passer quelque chose. Moi, je trouve que c'est un cas d'école, ces réseaux.
Ça a été fait en France sur un autre site qui est Métal Europe.
Exact.
Métal Europe, c'est le nord de la France. C'est une pollution avérée au plomb. Alors, la différence, c'est que Métal Europe, c'est une pollution qu'on appelle chronique, c'est-à-dire un certain temps de vie de l'installation industrielle elle-même qui a pollué les alentours. Là, on est sur un phénomène accidentel, donc qui est un petit peu différent. Pour autant, sur Métal Europe, il y a un suivi des populations au plomb. On a eu des études épidémiologiques de l'impact sur les populations, et c'est clairement ce qui va être mis en place aujourd'hui, je pense.
Une question, dans quel cas on évacue ?
Alors, quand il y a un risque aigu, instantané, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'aspect chronique dans le temps, et il y a l'aspect accidentelle tout de suite. Le risque là, c'est que selon les substances qui étaient présentes, il y aurait pu avoir certaines substances qui créent une mort presque instantanée des populations autour. Dans certains cas de figure, ça peut être le cas.
On voit cette carte à l'instant des sites Céveso en France. Et là, on se dit, en fait, on en a tout autour de nous. Est-ce que là-dessus, on va devoir évoluer, on va devoir changer les mentalités, les process
Oui, c'est vrai, il y a 1300 sites Céveso en France, dont 700 sont aussi dangereux que Lubrizol. ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'est plus habitué à vivre avec des usines, des installations qui sont dangereuses, et peut-être à juste titre en certaines parties, mais le problème, c'est que ces usines-là sont quand même utiles, sinon elles n'existeraient pas. Ouais. Donc le risque est grand, à mon avis, à l'avenir, qu'on aille les délocaliser dans d'autres pays avec des réglementations un tout petit peu plus laxistes que la nôtre.
Et ça, ou changer les pouvoirs publics, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire renforcer avec les citoyens qui ont une demande de plus en plus importante de prise en compte de l'environnement, c'est-à-dire renforcer les contrôles, donner plus de moyens à l'État et aux inspecteurs de l'environnement d'inspecter, de mettre des amendes et d'aller bien plus loin dans la mise en œuvre de la loi.
Une commission d'enquête parlementaire, pardon, mais c'est dans le débat aussi, ça change quelque chose que les députés réclament désormais?
Oui, ça change parce que ça veut dire certainement qu'à la suite de cette catastrophe, et comme pour toute catastrophe, il y aura probablement une loi. Et une commission d'enquête parlementaire, c'est certainement l'annonce d'une loi à venir, d'une sorte de réponse de l'État. Le problème, c'est qu'objectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de loi.
On a besoin de moyens.
C'est ça le problème. C'est qu'on a un vrai problème de moyens humains, matériels, dans ce pour prévenir ce type de catastrophe. Je ne dis pas que c'est l'absence d'inspecteurs qui est à l'origine de cette catastrophe, mais d'une manière générale, on a un défaut. Le syndicat national, le SNIM, qui représente ces inspecteurs, a observé une journée de grève dont personne n'a parlé en septembre 2018, pour dire effectivement, attention, le risque industriel en France n'est pas pris en compte par l'État, il n'y a pas les moyens suffisants. On va peut-être changer.
Il y a un état de catastrophe industrielle comme un état de catastrophe naturelle?
Alors non. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'automaticité de déclenchement des indemnisations comme on peut avoir en matière
de catastrophe écologique, comme certains l'ont dit. Il n'y a pas de catastrophe écologique.
Là, ce n'est pas une catastrophe écologique?
Non, il n'y a pas une rupture des écosystèmes, il n'y a pas de poissons ventre en l'air, il n'y a pas d'oiseaux qui tombent. Il pourrait y en avoir une, mais encore une fois, il faut un suivi sur long terme. Là,
on saura quand, en fait, les conséquences de cet accident? Parce que je vous entends parler les uns et les autres.
Ça peut prendre des années.
Ça peut prendre des années.
Quand une fois, c'est 25 ans.
Ou peut-être jamais. En tout cas, il y a encore une polémique sur la cause de l'incident.
Ben justement, cinq jours après, rien n'est franchement clair sur les raisons de cet incendie. L'entreprise a déposé plainte, évoque des images de vidéosurveillance, des témoins oculaires et parle d'un feu qui se serait déclenché à l'extérieur du bâtiment. L'enquête est en cours et jour après jour, des plaintes des particuliers, des associations s'accumulent. Julien Launay, Benoît Thébault.
L'ampleur de l'incendie rend le travail d'investigation plus délicat. Cinq jours après le sinistre, l'origine du feu n'est toujours pas déterminée. Le groupe Lubrizol, lui, émet pourtant une hypothèse dans un communiqué mise en ligne hier sur son site internet. La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s'est malheureusement propagé sur notre site. Lubrizol a porté plainte contre X pour destruction involontaire. Faut-il y voir un acte de malveillance ? Rapidement après l'incendie, les dirigeants de ce groupe de chimie américain avaient exprimé des doutes. Dans une zone destinée au stockage, comment expliquer cet embrasement ?
Je suis très étonné de voir un incendie qui démarre comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il n'y a personne.
Les autorités attendent le résultat des enquêtes menées par la police, la gendarmerie et les inspecteurs des risques industriels. Si aucune piste n'est écartée, elles assurent que l'usine était en conformité avec les règles imposées pour un site aussi sensible, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Elle est aux normes telles que nous l'avons vue en 2019, parfaitement à niveau. Elle ne l'avait pas toujours été. En 2017, elle a fait l'objet d'une mise en demeure en raison de 17 manquements.
L'usine Lubrizol à Rouen et ses insuffisances qui lui ont même valu une amende de 4000 euros après une fuite massive en 2013. Un gaz s'était échappé à l'époque, non toxique mais très incommodant, et l'entreprise avait alors fait parler d'elle.
Son odeur a surpris les habitants, provoqué un vent de panique et l'inquiétude générale.
Dans la nuit, on a senti une odeur de gaz et au matin, mes filles avaient des maux de tête.
On nous dit que c'est pas nocif, mais voilà quoi, est-ce que c'est vrai ?
Après l'incendie de la semaine dernière, le dispositif de sécurité pose question. Pourquoi l'alarme ne s'est-elle pas déclenchée immédiatement ?
C'est un endroit où nous stockons des produits en fût, qui sont effectivement en limite de propriété. Il n'y avait aucun travaux dans la zone. Et donc il y a des alarmes et des caméras de surveillance qui permettent de suivre la situation dans cette zone. Mais visiblement, et je pense que le feu s'est déclaré avec une telle violence et une telle rapidité que les systèmes d'alarme ont tout de suite été mis hors circuit et n'ont pas pu fonctionner.
Lubrizol, une usine qui produit notamment des additifs pour huile de moteur. Il s'agit d'un site Seveso en seuil haut, niveau de risque le plus élevé. La France compte près de 700 installations comme celle-ci, réparties sur tout le territoire. En principe, rien n'est laissé au hasard pour éviter le pire.
Lorsqu'il s'agit de Seveso seuil haut, depuis l'accident de la ZF en 2001, si vous vous en souvenez, eh bien en fait, il y a eu énormément de dispositifs et d'améliorations qui ont été apportés aux dispositifs de prévention des risques et de sécurité. Parmi elles, en fait, dès qu'on est classé Seveso seuil haut, eh bien, bien évidemment, il y a une étude de danger. Une étude de danger, c'est pour penser tous les scénarios possibles au sein du site industriel.
Depuis ce matin, un autre site Seveso en seuil haut suscite l'inquiétude en Seine-Maritime. L'usine de fabrication d'engrais Borealis, à environ 4 km de celle de Lubrizol, a été mise à l'arrêt. La raison, une perte d'alimentation électrique.
En général, c'est la loi des séries, mais celui-là était moins risqué, moins dangereux que ce qui s'est passé à Rouen. Que sait-on exactement des circonstances de l'incendie de l'usine Lubrizol, à l'heure où on se parle ? Pas grand-chose ?
C'est terriblement inquiétant aussi, je trouve. Oui. C'est-à-dire, effectivement, le gestionnaire du site dit que c'est un feu de départ extérieur. Il a déposé plainte pour feu de départ involontaire, donc on suppose que ce n'est pas terroriste, voilà.
On suppose, en fait.
Enfin, on suppose non. Enfin, on peut que supposer, vu que c'est rien pour l'instant. Enfin, vu que le terme involontaire a été dit, on suppose que c'est le cas. Je trouve ça incroyable aussi qu'on ne sache pas réellement, 5 jours après, ce qui a bien pu se passer, si c'est un court-circuit, si c'est une installation extérieure qui aurait eu un feu, qui aurait brûlé.
C'est ça qui est... que le feu ait pu prendre aussi vite, parce que quand on stocke des matières inflammables, a priori, on a une certaine capacité à isoler. On va déverser de la poudre, enfin c'est pas de la poudre, de la mousse, et là il n'y a rien eu apparemment. C'est étonnant.
Est-ce que l'entreprise pourrait avoir la volonté de se dédouaner? Parce qu'on a entendu, le ministre de l'Agriculture cibler clairement l'entreprise. Le Premier ministre l'a fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale en disant, en tout cas les responsables, on les connaît, ils devront rendre des comptes. Quand on regarde ce qui s'est passé par le passé avec AZF, etc., on va rentrer là dans des procédures en fait juridiques, judiciaires même.
Oui, alors les procédures judiciaires ne permettent pas toujours de savoir exactement ce qui s'est passé. Non. Dans AZF, par exemple, le juge n'a pas réussi à apporter cette vérité-là et chacun repart avec sa vérité. L'exploitant industriel, c'est normal qu'il se défende. Aujourd'hui, effectivement, il y a une enquête pénale qui est en cours, il y a le parquet qui s'est saisi, il a certainement envie d'avoir accès aux informations que les juges vont ensuite collecter. On n'en sait absolument rien. C'est vrai que c'est étrange qu'on n'en sache rien. Le plus important, c'est l'enquête administrative qui, elle, est en cours avec les inspecteurs qui sont formés pour cela et qui vont déterminer les causes du sinistre, on l'espère. Mais aujourd'hui, dire c'est l'entreprise, c'est l'État qui n'a pas assez contrôlé, etc., personne n'en sait rien en réalité.
Et c'est normal qu'au bout de 5 jours, on ait encore des délais raisonnables, ou est-ce qu'habituellement, encore une fois, pardon de vous poser toujours la même question, mais est-ce que quand on se tourne vers le passé, on peut se dire non, c'est quand même très long, ou au contraire, c'est des process qui sont assez normaux?
Avant 76, il n'y avait pas d'études d'impact, donc il faut imaginer ce qu'était la France industrielle avant les deux lois de 76. Qui ont imposé les études d'impact, et puis ensuite avec les directives CVE,
j'arrive pas à savoir, pour vous poser la question autrement, si 5 jours c'est long ou si c'est pas long pour une enquête d'une telle ampleur,
Non, c'est pas long. Ouais. Mais rien que le dosage des dioxines, s'il y a bien des dioxines, ça va prendre des jours et des jours. On le saura pas avant une semaine, 15 jours.
Est-ce que la communication du groupe alimente pas aussi une forme de suspicion en disant oui, c'est bizarre que ça se soit déclenché en pleine nuit dans une zone où il n'y a personne?
On peut douter de tout. Hein.
Le problème, c'est le mélange des genres, en fait. On est en train d'essayer de parler de tous les sujets à la fois, qui noient, en fait, pour moi, le vrai message, qui est de savoir, est-ce que c'est dangereux aujourd'hui ? Oui, non. Est-ce que c'est dangereux dans l'avenir ?
On ne peut pas répondre à cette question,
Aujourd'hui, oui, on sait répondre qu'à l'heure actuelle, personne ne peut mourir d'une émanation gazeuse. Ça, on sait y répondre. Oui. Par contre, si les gens restent un certain temps à respirer ces éléments-là, là, je ne sais pas leur dire aujourd'hui, au regard des éléments qu'on a, si oui ou non, ils prennent un risque pour leur santé. Et c'est ça la question qui reste en suspens. Et j'ai envie de dire que c'est pour moi la principale aujourd'hui. Après, qui sont les pollueurs? Qui sont les payeurs? Qui sont les responsables? On aura le temps. Ce qu'il faut, c'est mettre en sécurité et la population et la nature qui est autour.
Vous disiez tout à l'heure, ça va peut-être déboucher sur une loi et ça va peut-être déboucher sur des moyens. Comment ça se passe à l'étranger, le contrôle de ces sites? industrielle, est-ce que c'est pareil ?
Non, objectivement, la France est vraiment à la traîne en matière industrielle. La vraie réponse qu'apporte la France au risque industriel, c'est délocaliser, on l'a dit, des industries. Et c'est un choix politique à faire. Est-ce que oui ou non, on veut maintenir une industrie en France, au-delà des secteurs stratégiques dont on ne peut pas se passer, dont les carburants ? Mais objectivement, c'est une vraie question. Moi, c'est vrai qu'un inspecteur, par exemple, m'avait dit une fois, lorsque je visite un site, on imagine que je suis omnicompétent, que j'ai toutes les compétences pour faire face à tous les problèmes scientifiques. Or, moi, j'ai une formation scientifique, et lorsqu'on est scientifique, on n'est pas scientifique de toutes les branches de la science. Dans certains pays, par exemple, comme l'Allemagne, effectivement, l'inspection a autant de scientifiques que de causes, que de secteurs, que de problèmes à investiguer, et sur un même site, on n'en voit pas une seule personne.
Est-ce qu'on va pouvoir se passer... Cette carte, elle est impressionnante, la carte, on vient voir des sites Céveso, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'à terme, on va sortir les sites Céveso des zones urbaines ?
Vous pouvez...
Ça coûte de l'argent, enfin, c'est quasiment impossible.
Donc il faut vivre avec les industries.
Il faut vivre avec le risque, oui.
Quand c'est possible, c'est fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a une demande d'extension d'un site industriel ancien et qu'on sait que ça va impliquer une augmentation du risque, on leur demande de s'en aller. Par contre, sur un site qui est existant, qui opère comme il a toujours opéré depuis 50 ans, qui peut se permettre de leur dire aujourd'hui, vous allez cesser votre activité ?
Et ils sont de plus en plus vertueux ou est-ce qu'il y a du laisser aller ? Alors, dire comme ça.
Oui, non, au contraire, les pratiques environnementales des industriels sont de bien meilleures qu'avant. Ce qu'on paye en France, c'est notre historique industriel. C'est-à-dire, on parlait de la loi 76 qui a fait des évolutions, mais la France a fait la révolution industrielle. Donc le passif qu'on a, ce qu'on appelle le passif environnemental, c'est-à-dire l'historique de nos sols, qui par exemple contiennent encore énormément de pollution historique, ça on le paye aujourd'hui. Et ce n'est pas les pratiques aujourd'hui, ce n'est pas en 2019 qu'un site pollue le plus, bien sûr que non. Par contre, un site qui est là depuis 1952, bien sûr qu'il pollue.
Si je peux mettre, d'ajouter juste une réflexion, lorsque vous dites à un site industriel « partez », vous générez d'autres risques. Par exemple, que l'industriel se volatilise. C'est Metal Europe. Le jour où le préfet dit à Metal Europe, ça suffit, il se volatilise. Ce n'est pas le cas ici, c'est déjà la bonne nouvelle. On voit que les dirigeants s'expriment et il faut leur en donner quitus de ce point de vue-là. Deuxièmement, lorsque le site industriel s'en va, eh ben, il y a peut-être une friche, un site qui est pollué. Et il y a une pollution à traiter du sol, voire du sous-sol. À la surface, il n'y a plus personne. Qui va payer ? Et alors, on a des procédures, etc., qui sont très, très compliquées, où on se retrouve parfois avec ce qu'on appelle des sites orphelins. Il n'y a plus d'industriels, il y a une pollution qui reste, et on ne fait que sanctuariser la zone. Enfin, je veux dire par là que la solution miracle, j'entendais que des collectivités demandaient à ce qu'on exproprie les sites industriels. C'est pas la solution. La solution, c'est soit c'est dangereux, on arrête, mais c'est pas la question de la propriété, c'est la question du risque. Est-ce qu'il est suffisamment maîtrisé ? Est-ce qu'on tolère ces activités ? Et attention, le fait de dire on va mettre des gens sur le carreau et les priver de leur emploi, ça a des conséquences sociales et aussi écologiques.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Combien parmi les habitants en colère sont capables de comprendre une liste de produits chimiques sophistiqués ? Alors c'est ça le problème, c'est qu'on va communiquer la liste et puis on va aller voir les uns et les autres sur Internet pour savoir en gros si c'est dangereux ou pas.
Alors, c'est ce qu'il ne faudrait absolument pas faire, si je pouvais donner mon opinion au pouvoir public. Ils ont des professionnels, on le disait, à l'INERIS, à l'ADREAL, dans les corps d'État, qui savent analyser ces résultats, aussi bien que nous, professionnels de l'environnement. À ce titre, on peut donner des résultats avec une explication en face, en donnant des seuils, en donnant une analyse. Donc, pour moi, ce qui est intéressant de la part des pouvoirs publics, ce n'est pas seulement nous donner des résultats bruts qui vont être anxiogènes. Je fais un rapprochement avec une analyse de sang. Vous allez au laboratoire, vous faites une analyse de sang. Si on ne vous dit pas en face si c'est grave ou pas grave, vous allez être terrorisé par le chiffre. Il faut absolument faire la même chose qu'au laboratoire. Il faut expliquer les chiffres. Donc pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire.
Sinon, c'est terrible. C'est un grand mystère, la chimie. Mmh. Les molécules font peur. Il ne faut surtout pas qu'ils déversent la lisse en précaution.
Justement, cette question, et si les analyses sont mauvaises, que va-t-il se passer ?
Eh ben, on agira en conséquence. Il vaut mieux savoir. On dit souvent, en environnement et en pollution, on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire qu'il faut chercher les polluants, les trouver, pour pouvoir trouver une solution derrière. Il vaut mieux savoir. C'est comme l'analyse de sang.
Et suivre les populations cibles. Les populations
mais on a des solutions ? Ou est-ce qu'une fois qu'on a été contaminé, on dit bah, « dommage, c'est trop tard ».
Non, parce que là, on parle quand même de 5 jours. Si on parle d'une contamination long terme, chronique, 5 jours, c'est peu de temps. D'accord. Donc si jamais on se dit « telle zone, vraiment, c'est pas acceptable », on pourra se dire, au pire des cas, déplaçons la population. 5 jours d'exposition, d'un point de vue pollution chronique, c'est tout sauf long.
Quelle rumeur circule à Rouen ?
Beaucoup, beaucoup. On voit des oiseaux morts qui, en fait, viennent des États-Unis, je crois. Il y a de l'eau, on a vu tout à l'heure, l'eau du robinet qui, apparemment, serait très noire, qui viendrait bien de Rouen, mais qui ne serait pas liée à ça. On entend tout.
C'est-à-dire que... Le CHU de Rouen qui aurait dit qu'il ne fallait plus boire l'eau parce qu'elle était plus potable. Ouais. C'était un fake également, enfin une rumeur infondée, enfin voilà.
Oui, c'est...
Les fumées se sont-elles arrêtées à la frontière belge? Alors là, on est clairement dans l'allusion à Tchernobyl. Oui. Avec ce nuage, on a suivi ce nuage, le panache, pour se dire, phrase, bon, alors voilà, les Hauts-de-France, la Belgique.
Ce qui est une phrase que l'État français, entre parenthèses, n'a jamais prononcée.
Jamais, hein, jamais.
Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière, c'est une phrase de Noël Mamère.
Mais est-ce que c'est allé jusqu'à la frontière belge, après la frontière belge, jusqu'à la Belgique? Oui, c'est
allé. Vu en tirage, on n'est pas loin, on est à 15 km. Donc a priori, ils en ont eu.
C'est vrai que du point de vue du juriste, l'analyse des risques se fait souvent sur une aire d'étude qui comporte le site et les abords. On va étudier les risques aux abords du site et sur le site, mais il nous manque quelque chose. D'abord, l'analyse de l'air, c'est très 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 récent, c'est 1996. Hein, c'est grâce à Corinne Lepage qu'effectivement on pousse l'évaluation jusqu'à la qualité de l'air. Donc c'est récent. Mais en plus, c'est vrai que cette histoire de panache, objectivement, Code de l'environnement est muet sur cette question-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des études, on ne demande pas à l'industriel d'aller regarder jusqu'à la Belgique quelles seront les conséquences d'un éventuel panache.
Ce que vous appelez le panache, c'est le nuage de fumée.
Tout à fait.
C'est
ouais.
ça. Pourquoi un bombardier d'eau n'a-t-il pas été utilisé pour noyer l'incendie afin d'éviter la propagation du feu et des fumée.
Bah, c'est des corps gras, ça n'aurait servi à rien.
Enfin, on aurait dispersé les produits.
On aurait dispersé. Et
alors ça vous paraît évident, mais pourquoi?
Les pompiers sont formés à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en permanence, on doit avoir la liste des produits chimiques sur site pour qu'ils puissent adapter les moyens d'extinction aux typologies de produits. Et on sait que souvent, envoyer de l'eau, c'est une preuve d'amateurisme, au contraire, d'envoyer directement de l'eau sans se poser de questions. Donc au contraire, là-dessus, je pense qu'au contraire, sur la réponse des pouvoirs publics et du SDIS, donc du service des pompiers, on a une réponse adaptée.
L'incendie a été contenu assez rapidement.
Oui. Et je vous dirais même, pour aller plus loin...
Qui a étouffé, en fait, sur la nappe d'hydrocarbures, qui a étouffé
l'oxygène, l'incendie. De l'eau, vous allez soulever les hydrocarbures, vous allez les disperser.
Voilà. La suie qui est tombée est-elle nocive?
Oui.
Oui.
Oui. On le sait. On le sait, c'est classé cancérigène strict, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est encore une fois une question d'exposition. Alors, il ne faut pas la manger, il ne faut pas l'inhaler, il ne faut pas en avoir sur les mains, il ne faut surtout pas la manger. On le sait que c'est nocif, ça c'est sûr.
À ce sujet, l'ARS a publié sur le site de la préfecture toute une ligne de préconisation de se laver les mains, retirer ses chaussures si elles ont été impactées, ne pas consommer des végétaux. Donc là, il y a vraiment des règles d'hygiène stricte à appliquer.
Et on va pouvoir s'en débarrasser de ces suies qui sont retombées. Combien de temps faudra-t-il pour qu'elles disparaissent dans cette région-là? Elles vont partir dans les sols, vous nous le disiez tout à l'heure.
Elles vont partir dans les sols, elles seront dégradées naturellement par les micro-organismes. Oui, ça va prendre du temps, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien du tout. L'hiver arrive, donc ça risque de bloquer justement la vie de ces micro-organismes.
Combien de temps la pluie noire peut-elle vicier, justement, on en parlait, les nappes phréatiques en s'y infiltrant?
Ça va le faire, ça va s'infiltrer obligatoirement. Tout est une question de dose en pollution. Mmh. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut avoir quelque chose de très polluant, tout est une question de quantité qu'on va avoir, parce qu'on parle d'un nuage, d'un panache, tout dépend de la quantité qui va s'être imprégnée sur les sols, sur ce panache. Donc c'est ça
on
aussi,
le saura,
il faut des...
ça, on le saura.
Et ça va être mesuré, je l'espère.
D'accord. Combien d'années devant les tribunaux pour indemniser les victimes? Vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas de baguette magique, les tribunaux, et on a effectivement beaucoup de plaintes qui sont déposées, y compris par des particuliers. Ça sera long?
Là, pour l'instant, les plaintes qui sont déposées, ce sont des personnes simplement qui cherchent à savoir. Oui. On n'a pas de demande d'indemnisation pour l'instant. Il faut d'abord avoir un préjudice, une pathologie, une atteinte à son bien, à sa santé. Ensuite, il faut faire le lien de cause à effet entre ce que vous subissez et l'événement. Par exemple, sur le plomb, est-ce que si vous retrouvez du plomb dans votre organisme, c'est lié à cet incendie, c'est lié à une autre cause? C'est très difficile de faire ce lien de cause à effet. Très sincèrement, je ne suis pas sûr que la réponse judiciaire soit la plus adaptée. Il faudra des indemnisations, mais administratives dans un premier temps.
On conseille le confinement. Cela veut-il dire aussi stopper les VMC et boucher les ouïes de ventilation des fenêtres?
Oui.
Oui. Oui.
Le confinement, le principe est d'assurer. Alors, le confinement a été demandé par la préfecture au moment où il y a eu l'incendie. Il a même été demandé un petit peu tardivement. C'est toute la polémique qui fait que le confinement a été demandé à 8h au lieu d'être demandé à 2h du matin. Mais le confinement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y avait eu un risque de mort rapide lié aux procédures, au gaz, il fallait s'assurer qu'on était loin d'une sortie, loin de plus avoir de VMC, de plus avoir d'arrivée d'air neuf, en fait.
À l'heure des réseaux sociaux, faut-il craindre la propagation de fake news, comment démêler le vrai du faux? C'est vrai que c'est pas facile. Et en préparant cette émission, on a dû le faire aussi, tenter de démêler le vrai du faux.
Mais ça pose la question de la culture scientifique en France et de l'absence de médiateurs en matière scientifique. On citait le faible nombre d'inspecteurs des sites, il y a aussi le faible nombre de toxicologues et d'éco-toxicologues qui connaissent ces molécules.
Y avait-il une sirène pour prévenir le voisinage de se calfeutrer ou d'évacuer?
Oui, je crois, oui.
Il y en avait une, et elle a sonné aux alentours de 8h. Bonsoir, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.